Donc bonjour à tous. Donc je suis Stéphie Rocky. La prononciation était bien. Je fais partie du laboratoire Crona Environnement. Je travaille dans le service de mycologie du CHU de Besançon. Et donc je travaille aussi dans la zone atelier Arc Jurassien. Donc dans le programme c'était écrit Moselle, mais vous verrez, on travaille avec la zone atelier Moselle. Donc c'est pas très très grave. Alors, je travaille sur une moisissure qui s'appelle Aspergillus fumigatus, qui va entraîner des pathologies qu'on appelle aspergillose, donc pathologies qui vont de l'allergie jusqu'à des infections fongiques invasives, où on peut observer un envahissement du tissu pulmonaire, par exemple, par cette moisissure, et ce qui entraîne des taux de mortalité qui peuvent être très importants. Alors, ces pathologies vont toucher l'homme, principalement les patients immunodéprimés, mais aussi les patients atteints de mucoviscidose, les patients avec la grippe et plus récemment les patients Covid. Ça va aussi toucher les animaux, donc des animaux sauvages et domestiques d'écosystèmes terrestres ou aquatiques. Et puis à noter par contre que cette moisissure n'est pas phytopathogène. Vous verrez tout à l'heure pourquoi c'est important que je vous le précise ici. Alors, ces aspergilloses vont être traitées chez l'homme et chez les animaux par des traitements antifongiques qui sont à base de molécules azolées. Donc, c'est le traitement recommandé pour les pathologies à Aspergillus. Et puis, comme à chaque fois qu'on va utiliser des antimicrobiens et peut-être même plus largement des biocides, on va observer des résistances à ces traitements. Tout le monde connaît la résistance aux antibiotiques. On observe le même phénomène concernant la résistance aux antifongiques depuis maintenant plus de 20 ans, donc résistance à ces antifongiques azolés. Alors, si on regarde au niveau des voies d'acquisition de résistance, il y a une voie classique, on va dire, qu'on observe lorsqu'on a des patients qui sont traités au long cours. Donc, en médecine humaine, on a quatre antifongiques azolés médicaux. Et puis, lorsqu'on donne des thérapies sur le long terme, on peut observer des souches fongiques qui deviennent résistantes à ces traitements. Et puis, il y a une voie un peu particulière, et puis c'est ce qui fait l'objet de mon travail, c'est une voie qu'on appelle environnementale, avec des cas de résistance qui sont liés à une utilisation très importante des fongicides azolés dans les agrosystèmes, avec plus de 30 molécules azolées qui sont utilisées en agriculture. Alors, ce qui se passe, c'est que quand ces molécules azolées sont utilisées, et en particulier les 5 qui sont notées sur cette figure, dont l'hypoxyconazole, diphénol, propicobrom, muco et tébuconazole. Lorsque ces molécules sont utilisées, par exemple, en agriculture, elles vont avoir un impact non intentionnel sur Aspergillus fumigatus qui est présent dans les sols. Donc, je vous ai dit, cette moisissure n'est pas phytopathogène, mais elle est naturellement présente dans la terre. Et donc, lorsqu'elle va être exposée à ces fongicides dans l'environnement, elle va développer des mécanismes de résistance à ces traitements. Elle va être sélectionnée, ce qui va engendrer des populations de souches résistantes plus ou moins importantes suivant les endroits. Les mutations qui vont être acquises vont être principalement être sur le gène CYP51A. Et donc, juste le truc à retenir, c'est que il s'agit des mutations entre autres TR34, L98H et TR46, mutations où on a des arguments qui prouvent que ces mutations surviennent uniquement dans l'environnement et mutations qui sont liées à l'utilisation des fongicides. Lorsqu'on a un patient qui va être colonisé par des souches qui sont d'emblée résistantes au traitement, vous imaginez que si le patient développe une infection fongique invasive avec ce type de souche, il ne sera pas possible de le traiter avec les molécules actuelles. Alors, si on regarde ce qui s'est passé, alors j'ai mis problème de santé publique avec un point d'interrogation entre parenthèses. Certains continuent à dire que ce n'est pas un problème de santé publique. Vous pourrez en juger par vous-même. On a les premiers cas de résistance chez Aspergillus fumigatus. Le premier cas qui a été publié en 97 aux Pays-Bas, à savoir que les Pays-Bas étaient les premiers à utiliser de façon massive les azolés en agriculture. Jusqu'en 2006, on avait moins de 10 cas qui étaient publiés dans la littérature. Et puis là, je vous fais une carte d'un bilan que j'ai fait donc cette année, où j'ai regardé le nombre de publications rapportant les mutations dites environnementales. Donc, bilan en 2020, donc où je vous mets par pays le nombre de publications qui rapportent ces différents cas. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que les Pays-Bas sont toujours devant. Pas loin derrière, on a la France et que finalement, l'Europe, là, est au centre de toutes les attentions au niveau de cette problématique. Ce phénomène est donc en constante augmentation. Lorsqu'on regarde la bibliographie, il y aura très régulièrement des nouveaux cas décrits. Et puis, les prévisions disent qu'on va avoir une augmentation du nombre de personnes à risque, notamment par les chimiothérapies lourdes, qui sont maintenant, proposées, les greffes de moelle, etc. Alors, si on regarde ce qui s'est passé, à Besançon et un peu plus largement dans notre région, au niveau des aspergilloses invasives avec des souches résistantes, on avait décrit en 2011 le premier cas français qui est survenu chez un agriculteur français, un agriculteur franc-comtois, pardon. Patient qui était hospitalisé dans le service d'hématologie, patient immunodéprimé, pour lequel on avait retrouvé une souche d'Aspergillus fumigatus portant la mutation TR34, donc mutation en lien avec l'utilisation probable de fongicides dans l'environnement. Ensuite, on a eu un cas chez un scieur qui, suite à un accident du travail, a eu une destruction faciale et a développé une aspergillose sinusienne avec encore une fois une souche TR34. Et puis plus récemment, un chauffeur de camion du service d'hématologie, hospitalisé dans le service d'hématologie. Pour ces patients, on a essayé de regarder si on pouvait trouver un lien avec l'utilisation de fongicides dans l'environnement. Et puis pour le premier patient, j'étais allée faire des prélèvements dans ses champs de céréales et j'avais trouvé à l'époque dans un champ traité aux azolés, donc au protuconazole et à l'hypoxiconazole, un Aspergillus fumigatus avec la même mutation. Pour le patient scieur, puisque c'était un accident du travail, c'était trop compliqué d'aller dans la scierie en question. Par contre, on a fait une étude dans 20 scieries franc-comtoises et on a pu montrer la présence d'Aspergillus fumigatus encore avec la mutation TR34. En lien avec l'utilisation de propiconazole et de tébuconazole dans ces scieries. Et puis pour le troisième patient, il n'avait entre guillemets pas de profession à risque comme les deux précédents. Par contre, son logement était une ferme entourée de champs cultivés. Donc on n'a pas fait d'études environnementales, mais peut-être des champs traités aux molécules azolées. Au niveau des pathologies qu'on observe, sur Besançon, on a aussi les aspergilloses bronchopulmonaires allergiques, donc aussi liées à Aspergillus fumigatus. Et puis depuis 2017, on fait un focus particulier sur ces patients-là. Si on regarde les prévalences au niveau des Aspergillus fumigatus résistants aux azolés trouvés chez les patients de mucoviscidose, vous voyez que la France ici a une prévalence maximale de 12%. Nous, à Besançon, en 2017, on était à 16% des patients atteints de mucoviscidose, qui étaient colonisés par ce type de moisissure avec les mutations d'origine environnementale. Nous avons également mené une étude donc dans des cultures maraîchères, donc là sans lien avec des cas cliniques. On voulait essayer de voir si on retrouvait aussi ces souches résistantes dans ce type d'agriculture. Et dans deux sites où les maraîchers utilisaient du difénoconazole, on a retrouvé des mutations, des souches avec des mutations TR34, mais aussi la TR46, qui est également décrite comme retrouvée dans l'environnement en lien avec les fongicides. Par contre, on avait trouvé dans des sites qui utilisaient les difénoconazoles, on avait retrouvé des Aspergillus fumigatus, mais pas de souches résistantes. Et donc, pour la première fois, on s'était dit peut-être qu'il faut travailler sur le type de sol dans ces cultures et que peut-être ce type de sol a une influence sur le fait ou non de sélectionner des souches résistantes. À ce stade-là, on en était resté au stade d'hypothèse. Alors là, aujourd'hui, on a un peu plus de 250 isolats résistants. Ça constitue la plus grosse collection de souches résistantes au niveau national. Donc cette collection est à étudier. Donc on étudie cette collection. L'idée, c'est d'essayer de voir comment diffusent les souches des hotspots de résistance à l'hôpital jusqu'aux patients. Je travaille avec d'autres chercheurs pour essayer de comparer les génotypes que nous avons ici par rapport à ce qui est décrit dans le monde. Visiblement, on aurait certains clones qui seraient régionaux, donc pour l'instant pas retrouvés ailleurs dans le monde que chez nous. Donc on aurait peut-être des résistances plus locales avec des phénomènes qui arrivent localement. Et puis il y a également un phénomène de résistance migrante, on va dire, avec ce qui est mis en avant. Notamment, c'est la commercialisation des bulbes de tulipes, bulbes de tulipes qui sont produits en majorité aux Pays-Bas, traités aux antifongiques azolés et qui peuvent se retrouver dans différents pays. Donc voilà, une collection vraiment à étudier afin de comprendre la diffusion de ces clones résistants et puis surtout, à mon sens, des conditions de sélection de résistance qui sont à étudier. Jusqu'à maintenant, on avait tendance, je dis on, mais c'est plus largement le cas. On part toujours d'une pathologie développée chez l'homme pour essayer d'aller trouver une explication dans l'environnement. Là, la situation actuelle nous a montré un peu notre incapacité à anticiper l'émergence de pandémies, par exemple. Je pense que là, pour cette problématique, il faudrait qu'on inverse la chose. C'est déjà pas oublier que ça touche l'homme, mais pas que. Et puis plutôt inverser les choses, c'est aller voir dans l'environnement. Donc, dans ces potentiels hotspots de résistance, donc où les molécules azolées sont utilisées en masse, d'essayer d'aller comprendre comment cette sélection de résistance opère, comment ces clones vont diffuser jusqu'aux populations à risque, et si possible, pour éviter que ces populations à risque ne deviennent infectées. Alors, on a une thèse en cours qui est la thèse de Chloé Godeau, que je co-encadre avec Nadia Crini. Qui est chimiste, et donc thèse qui s'intitule Fongicides triazolés dans les sols des exploitations agricoles, dissémination, impact et remédiation, avec, on va dire, trois parties. La première, c'est évaluer la diffusion et l'accumulation des fongicides triazolés environnementaux dans les agroécosystèmes. Deuxièmement, d'établir le phénotypage de résistance des souches dans les exploitations et essayer de voir les mutations qui sont impliquées dans la résistance. Et tout ça, c'est pour mieux comprendre les conditions, entre guillemets, privilégiées où on va avoir de la résistance dans les sols en étudiant les facteurs abiotiques et biotiques. L'idée derrière, c'est de proposer des moyens pour limiter ces phénomènes de résistance et la sélection de résistance. Alors, un des volets de la thèse passe par une approche pédologique, donc où on travaille avec Sylvie Doucet de la zone Atelier Moselle. L'hypothèse, c'est que la composition des sols et notamment le pourcentage de matière organique va avoir son importance dans la rétention des fongicides, ça c'est décrit, et donc potentiellement dans le développement et la sélection de résistance. Donc on a fait et on va faire des prélèvements dans des exploitations céréalières. L'idée, c'est de caractériser les sols en termes de granulométrie, pH, matière organique. Entre autres, hein, et de voir le lien avec la résistance, et puis de comparer les sols de Lorraine et de Bourgogne-Franche-Comté. Donc, j'aurais aimé pouvoir vous présenter les premiers résultats, mais on a dû décaler la session terrain qui était initialement prévue en mars l'année dernière. Donc, on vient de faire la session terrain en septembre. On a fait des prélèvements dans 13 parcelles en Moselle de culture de céréales, donc avec Sylvie, et puis ben, les analyses sont en cours. J'espère qu'on aura des résultats intéressants. Voilà, je vous remercie pour votre attention.